Accent d'Europe, Catherine Roland.
Bonjour à tous. La Russie serait capable de lancer une attaque sur la Lituanie en 24 heures à peine. C'est le cri d'alarme lancé par les services de renseignement locaux. Alors, au début du mois, des exercices militaires se sont déroulés conjointement entre l'armée, la police et les services de protection civile. 3000 soldats, 500 policiers notamment ont participé à l'opération Foudre, destinée à répondre aux nouvelles menaces de type hybride. Et c'est le reportage de Marielle Vitureau.
L'attaque du bâtiment abandonné dans le petit village de Meshkoutchei est imminente. Par mégaphone, les badauds sont priés de se ranger sur le côté. Les tirs sont certes factices, mais on pourrait s'y méprendre. Les mitraillettes tirent en rafale et l'odeur âcre de la poudre sature l'air de cette chaude journée de printemps. Le major Gedimina Selchauskas est responsable du déroulement de l'exercice.
Ce bâtiment était occupé par une trentaine de combattants appartenant au groupe Engis. Toute la semaine, ces hommes ont provoqué plusieurs incidents dans la ville de Mariampolé. Ils ont même réussi à occuper le bâtiment de la mairie. Les forces de réaction rapide sont parvenues à les localiser et ont donné l'ordre à l'unité de combat du 2e bataillon de les neutraliser.
Les albatros vrombissent au-dessus des têtes. Plus de 130 militaires ont participé à cette ultime opération de cette semaine d'exercice. Le soldat de première classe, Gintaras Babrauskas, y avait une tâche bien précise.
J'étais en charge des messages transmis par le haut-parleur. C'est un moyen pour nous de mener des opérations psychologiques contre l'ennemi. Mais l'important dans tous ces exercices, c'est notre capacité à agir de façon concertée, de nous entraîner. Les différentes unités doivent pouvoir travailler en commun. Nous croyons en ce que nous faisons.
Le conflit en Ukraine a renversé la donne dans la région. Plus de 25 ans après le retour de l'indépendance, la crainte de voir le pays attaqué à nouveau par la Russie est réapparue. Quelques jours après l'arrivée du contingent allemand au sein de la force de l'OTAN sur place, des accusations mensongères de viol par les soldats allemands ont été propagées. De fausses informations de plus en plus fréquentes, véhiculées par le web, pour une nouvelle tentative de déstabilisation. C'est d'ailleurs à ce nouveau genre de menaces que la Lituanie doit faire face, s'entraîner à les affronter, est indispensable pour le général Jonas Žukas, chef des armées.
Les soldats allemands, belges, hollandais et norvégiens sont stationnés en Lituanie. Avec eux, nous nous entraînons à combattre des attaques conventionnelles. En cas de menace hybride, c'est à nous d'y faire face. Et l'armée doit venir en aide aux forces de police qui dépendent du ministère de l'Intérieur. Le danger d'une guerre hybride est toujours présent.
Un danger dont est bien conscient Vassili. Dans la vraie vie, le jeune homme fait partie des forces armées volontaires. Crâne rasé, vêtu d'une tenue militaire sans signe distinctif, il a endossé toute la semaine le rôle de l'ennemi de la Lituanie.
Notre but était de défendre le bâtiment que nous avions occupé. On savait pourtant qu'à la fin, on devait se rendre et aucun soldat n'aime capituler. Cela fait quelques jours que nous sommes ici. Les gens viennent observer, ils sont curieux. Je pense que si jamais des forces ennemies voulaient s'installer, elles seraient vite repérées et identifiées. Du coup, elles ne resteraient pas très longtemps.
Vilya Klokovskiene est venue avec ses 6 enfants observer de près l'opération. Professeure de religion à l'école, elle espère bien que ses fils feront l'armée. Depuis quelque temps, elle regarde à nouveau la télévision.
Je regarde à nouveau la télévision russe pour voir comment ils présentent ce qui se passe chez nous, comment ils déforment les événements. Je détecte très bien leurs mensonges, mais il faut rester attentif, car un jour, ces mensonges peuvent devenir réalité et ils peuvent attaquer. Je suis une mère de famille et ça m'inquiète.
Pour débusquer ces tactiques dites hybrides, les ministères régaliens ont tous établi des départements de communication stratégique. La société civile réagit elle aussi. Des brigades d'elfes ont été créées pour contrer les trolls qui déversent leur propagande sur le net. Organisés sur les réseaux sociaux, des Lituaniens démontent donc les discours mensongers, pointent du doigt la propagande et apprennent aux 4500 citoyens qui les suivent à exercer leur esprit critique.
Bunlar bizi öldürmeye çalışıyorlarsa çok ciddi bir şey olacak demektir yüzbaşım. Zaten hapiste olan bir özel kuvvetler subayını neden öldürmek istersin? Biz bir şey yapmaya niyetliyiz ve sen buna burnunu sokamayacaksın.
Musique à suspense, de vrais thrillers, mais à la gloire de l'État turc, voilà ce qu'on entend dans ces bandes-annonces. Les chaînes de télévision sont abreuvées de ces séries qui exaltent le patriotisme et la grandeur des forces armées. Un phénomène qui n'est évidemment pas étranger aux opérations de l'armée turque en Syrie et surtout au coup d'État manqué de l'été dernier. Anand Lauer nous appelle d'Istanbul.
Des silhouettes de soldats dans le soleil couchant, des hommes récitant le Coran avant de partir au combat, promettant de tomber en martyr pour la survie de la patrie. Ces dernières semaines, les Turcs sont abreuvés de séries télé louant le courage et la force de leurs militaires et policiers. Sur l'écran, le drapeau turc flotte sans cesse. La légende veut qu'il symbolise le reflet d'un croissant de lune et d'une étoile dans une mare de sang versée au cours d'une bataille célèbre du XIe siècle. Ici, il est question de guerres actuelles, de guerres contre le terrorisme. Celle engagée l'été dernier par l'armée turque contre le groupe État islamique et les milices kurdes en Syrie. Celle que mènent toutes ses forces de sécurité depuis plus de 30 ans contre les séparatistes kurdes dans le sud-est de la Turquie, avec une violence nouvelle ces deux dernières années. Fox TV, Star TV, Canal D, les plus grandes chaînes privées ont flairé le filon et diffusent chaque semaine un nouvel épisode d'une série à la gloire des forces armées turques. Certes, le concept n'est pas nouveau et l'on a déjà vu la télévision turque glorifier ses soldats dans un pays où le service militaire obligatoire reste un rite de passage et où chaque homme qui tombe reçoit officiellement le titre de martyr. Mais il y a ici au moins deux nouveautés. D'abord, les séries produites récemment mettent tout en avant les membres des forces spéciales qui sont en première ligne dans le sud-est kurde et dans le nord de la Syrie. Ensuite, le lancement au même moment de séries quasi identiques s'explique non seulement par un état de guerre permanent, mais aussi par la tentative de putsch de l'été 2016. Il s'agit pour les chaînes, autant que pour l'État, de redorer le blason de ces forces armées dont des dizaines de milliers de membres ont été arrêtés ou limogés après le coup d'État manqué. En somme, comme le dit un expert militaire, renouer le lien entre l'armée et la nation chez un public traumatisé par le choc du putsch et les développements en Syrie. Quoi qu'il en soit, le public est au rendez-vous. Deux des séries les plus récentes dominent les audiences depuis leur premier épisode.
Ouvert en novembre dernier dans le nord de Paris, le centre humanitaire de la Chapelle accueille une petite partie des migrants, 400 places réservées aux hommes seulement, des réfugiés qui viennent tout juste d'arriver en France et qui doivent donc déposer leur demande d'asile. Ce centre d'accueil n'est que transitoire, les réfugiés sont ensuite répartis dans d'autres structures un peu partout dans le pays. Mais le site parisien, géré par l'association Emmaüs Solidarité, est lui sous le feu des critiques, il est déjà saturé et chaque jour, de longues files d'attente se forment à l'entrée. Reportage, Teresa Sedel.
À quelques pas du métro Porte de la Chapelle, des hommes sont adossés contre la grille qui entoure le centre humanitaire Paris Nord. Juste derrière, une immense tente jaune et blanche attire le regard. C'est là que les membres d'Emmaüs Solidarité sélectionnent les migrants qui pourront entrer sur le site de 10 000 m². Ismaïl y est accueilli depuis 10 jours. L'Irakien a déjà vécu en Allemagne, mais en a été expulsé. Désormais, il tente sa chance en France.
On est quatre dans une chambre. Hier, deux Africains de ma chambre ont été transférés ailleurs. Maintenant, il y a deux nouvelles personnes. Elles ont le même âge que nous. Ça, c'est ma chambre. Chacun a un lit, une armoire pour les fringues. Il y a le chauffage, il fait chaud, c'est bien.
Le centre est un lieu de transit. Les migrants n'y restent que 2 semaines avant d'être transférés vers d'autres lieux d'accueil partout en France. Malgré tout, ils ont le temps de se poser un peu à la chapelle. Les bénévoles leur donnent des informations sur la demande d'asile. Au besoin, des médecins et psychologues s'occupent d'eux et de temps en temps, raconte Ismaïl, ils peuvent suivre une initiation au français.
Il y a une femme qui vient nous aider avec le français, mais lentement. D'abord, elle nous a appris l'alphabet. C'est une femme très gentille. Tous les gens ici sont bien.
Les migrants reçoivent 3 repas par jour. Ils peuvent laver leur linge ou changer de vêtements. Parfois, des concerts classiques sont organisés, un terrain de foot est en construction. Les lits ne restent jamais vides très longtemps, beaucoup trop de personnes demandent à entrer. et certains baissent les bras, comme Boubacar de Guinée, qui en février dernier a vainement tenté sa chance.
Je suis venu directement à la porte. J'ai dit que je voudrais rentrer. Ils m'ont dit, monsieur, ici, c'est pas comme ça. Après, ils m'ont expliqué, ils m'ont dit, il faut que je me mette sur le rang, sur une file, et que si j'ai la chance d'être pris, alors. Je suis resté pendant plus d'une semaine. On ne me prenait pas. Chaque jour, je venais à 5h ou 4h du matin pour me mettre en rang. Donc, je me disais, mais c'est quelle vie ça? J'ai failli aller me déclarer et retourner.
Boubacar n'a finalement pas obtenu de place dans le centre de la chapelle. Aujourd'hui, il est hébergé par roulement dans plusieurs familles grâce à l'association Utopia 56 qui aide à gérer le site. Léa Boulstek, c'est la responsable des bénévoles d'Utopia. Assise par terre à l'entrée, elle distribue des gobelets d'eau aux migrants qui attendent dehors. Il y a quelques semaines, des incidents ont éclaté devant le site. En cause, des migrants désespérés qui cherchaient à entrer à tout prix. Pour éviter ces bagarres, le centre décide parfois de ne pas organiser de file d'attente et met en place des maraudes pour aller chercher les migrants qui campent dans les rues de Paris.
Sous le pont là-bas, on a des Afghans. De l'autre côté, sur le pont où il y a les rochers qui ont été taillés par les tailleurs de pierre, on a des Soudanais. Les gens, en fait, ils attendent du coup d'être pris par la maraude. Et on a aussi tous les primo-arrivants, donc vraiment les gens qui viennent juste d'arriver à Paris et à qui on dit « va au camp de Porte de la Chapelle » comme si c'était la solution miraculeuse, mais pas du tout, en fait. Et malheureusement, il n'y a pas de place.
Désormais, c'est à l'État d'accélérer les transferts vers les autres structures d'accueil, estiment les responsables du centre. Pour Bruno Morel, c'est la seule façon de pouvoir recevoir plus de migrants dans le centre de premier accueil de la Chapelle. Il pense toutefois que l'objectif initial, éviter la formation des campements sauvages, a été rempli.
Moi, je ne me satisfais pas qu'il y ait encore des personnes dehors. C'est pour ça qu'on travaille sur l'amélioration du dispositif. Ce dispositif est une première dans une ville comme Paris. Jamais personne n'a fait ça. Il reste des petits campements, mais on n'est pas sur ce qu'on nous avait dit, vous aurez 2000 personnes devant le site. Donc moi, je crois qu'on est dans la bonne voie. Maintenant, il faut qu'on adapte les moyens dans une approche de solidarité nationale.
L'appel des associations a été entendu. Les ministères de l'Intérieur et du Logement se sont engagés à accélérer les rythmes des transferts à 300 par semaine. Fin avril, l'objectif a été atteint.
Dans les Balkans, l'Albanie a du mal à se dépêtrer de sa crise politique. Officiellement, les Albanais sont appelés aux urnes pour renouveler leur parlement le 18 juin, mais l'opposition refuse d'y participer et demande carrément des garanties pour un scrutin réellement démocratique. Simon Rico.
Le Parti démocratique n'en démord pas. Si un gouvernement technique n'est pas formé au plus vite, il boycottera les prochaines élections législatives. Depuis la manifestation géante du 18 février, ses députés ne participent plus aux séances du Parlement et ses partisans continuent de se rassembler dans le chapiteau planté ce jour-là sous les fenêtres du Premier ministre Edi Rama. Ces dernières semaines, l'opposition a même durci son mouvement, bloquant des routes et promettant que les manifestations ne se limiteraient plus à la seule capitale Tirana. Le 7 mai, un grand rassemblement devait avoir lieu dans la ville de Kavaya à l'occasion d'un scrutin municipal anticipé, mais Edi Rama a finalement annoncé le report sine die de ce vote. Lors d'une conférence de presse extraordinaire, il a dénoncé la tentative de déstabilisation menée par le Parti démocratique et annoncé que les législatives du 18 juin auraient lieu à cette date, même sans la participation des candidats de l'opposition. Il faut dire qu'il se sent de nouveau en position de force après avoir dû se séparer à la mi-mars de 4 ministres sur fond d'accusations de lien avec le crime organisé. Le chef du gouvernement social-démocrate a achevé de se rabibocher avec Ilir Meta, le chef de son principal partenaire de coalition, en le faisant élire à la présidence de la République. Pour le moment, la médiation de l'Union européenne n'a donné aucun résultat et si jamais le scrutin avait lieu sans l'opposition, ce serait une première pour l'Albanie depuis la chute du régime communiste en 1991.
Et vous êtes bien notre number one. Bonjour Eve Minot.
Bonjour Catherine.
Alors, comme chaque année à la même époque, les grandes publications dévoilent leur classement des meilleures universités au monde. Toujours aussi contesté par certains, il continue pourtant d'avoir une réelle influence sur un marché des étudiants globalisé. Alors, on fait le point avec vous.
Et oui, c'est une véritable ranking mania, une manie du classement qui s'est emparée des présidents d'universités et parfois même des responsables politiques au plus haut niveau. Les classements d'universités internationaux, on veut y être, on doit même y être, certains le pensent en tout cas.
Oui, mais il faut quand même l'avouer, on s'y perd un peu, Ève.
Alors oui, entre le classement de Shanghai, publié pour la première fois en 2007, celui du Times Higher Education, très académique, très anglo-saxon aussi, comme son nom l'indique, se sont glissés de petits nouveaux, comme le britannique de l'Institut QS. Tous font la promesse de sortir chaque année, matière par matière, le podium des meilleurs diplômes, ceux qui ouvrent les portes des plus grandes carrières internationales, à l'heure où l'éducation est devenue un marché comme les autres. Mais dans les faits, ce sont généralement les grandes universités anglo-saxonnes qui tirent leur épingle du jeu, des vieilles universités britanniques comme les établissements américains de la Ivy League.
Alors dans ces classements, les établissements européens et surtout français n'ont pas vraiment la cote aujourd'hui en 2017.
Non, on pourrait même dire que leur influence est plutôt en recul. Dans le dernier classement de l'Institut QS par exemple, qui distingue les établissements par domaine d'enseignement, la France ne recouvre que 2,47% des établissements mentionnés, tandis que Harvard termine par exemple première dans 15 matières et que Cambridge, Berkeley et Oxford se hissent dans le top 10 dans une trentaine de disciplines. Alors la faute, selon le responsable d'établissement européen, aux critères retenus par les classements, la réputation académique et professionnelle des établissements, le volume et la réputation des publications, surtout dans les revues scientifiques, le ratio enseignant-élève, le poids des échanges internationaux ou encore l'environnement d'apprentissage. Seulement voilà, en Europe, les publications prestigieuses sont plus rares car tous les papiers de recherche ne sont pas forcément publiés en anglais.
Reste que dans certains pays, intégrer l'un de ces classements est devenu un objectif primordial.
Oui, un journaliste suisse raconte ainsi dans le quotidien roman 24 heures que la Russie, par exemple, aurait un programme d'État, le 500 exactement, qui vise à placer 5 universités dans le top 100 des principaux palmarès, sans regarder à la dépense. Dans certains pays de l'Union européenne aussi, comme la Norvège ou le Danemark, le financement des établissements par l'État peut aussi être influencé par leur présence dans ces fameux classements internationaux.
Alors d'autres classements émergent tous les ans qui permettent de faire un peu plus de place aux universités européennes.
Oui, il y a d'abord eu le U Multi Rank ou le U Multi Rank, selon qu'on le dise en anglais ou en allemand, piloté par la Commission européenne et publié pour la première fois en 2014, qui permet de choisir les critères de sélection.
Alors, vous pouvez préciser un peu plus, Eve?
En fait, il permet de sélectionner les critères que l'on veut faire ressortir, comme l'enseignement et l'apprentissage, mais aussi par exemple le transfert de connaissances, l'orientation internationale ou l'engagement régional. Et selon ce classement et ces quatre critères, une large majorité des universités et des grandes écoles françaises évaluées sont au-dessus de la moyenne mondiale, ce qui est plutôt forcément une bonne nouvelle. Ce classement permet d'ailleurs de faire émerger d'autres établissements que les classements traditionnels, qui récompensent souvent en France l'école normale supérieure par exemple, ou polytechnique. Ainsi, les écoles de commerce comme l'EDEC ou l'ESSEC sortent du lot, ainsi que d'ailleurs que les écoles d'ingénieurs Télécom Paris Tech, Centrale Lyon ou Grenoble INP.
Autre classement encore qui fait la part belle aux établissements européens, c'est le petit dernier, une nouvelle version du classement du Toms Higher Education.
Oui, la revue propose depuis cette année un classement des établissements internationaux de moins de 50 ans. Et à ce jeu-là, l'Europe s'en sort très bien, puisqu'elle place 110 établissements parmi les 200 meilleurs du classement. Donc Suisse, France, Pays-Bas, Allemagne, tous ont placé au moins une université parmi les 15 premiers. À relever également la présence de 5 établissements asiatiques dans le top 10. Et si vous cherchez, Catherine, une université au Danemark ou en Corée, ou réaliser un master, pourquoi pas, je vous mettrai les liens vers les classements, les fameux classements, sur la page internet de l'émission Accent d'Europe.
Oui, volontiers, Eve. Et on vous retrouve évidemment la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.
À la réalisation, il y avait bien sûr Françoise Grelot. Vous pouvez nous retrouver sur RFI.fr ou sur notre page Facebook. Restez à l'écoute de la Radio Mondiale. Dans quelques instants, un peu de patience, le journal.